France Inter, le 18-20.
Dernière soirée confinée. À partir de demain, ce sera le début du commencement du déconfinement tant attendu, avec des différences selon les régions, selon qu'elles sont en rouge ou en vert sur la carte de France. Mais quelle que soit la couleur, pas d'illusion, nous n'allons pas retrouver du jour au lendemain l'insouciance de la vie d'avant. Le virus ne s'est pas évaporé, il circule toujours sur le territoire. D'ailleurs, nous sommes tous invités à adapter nos comportements pour éviter un rebond de l'épidémie, ce qui pour les hôpitaux serait une catastrophe. Avec nous pour en parler ce soir jusqu'à 19h, le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Il nous dira comment lui et ses équipes ont fait face depuis 2 mois et quelles seraient selon lui les conditions d'un déconfinement réussi. On parlera aussi du seul département français où le déconfinement n'est toujours pas d'actualité, Mayotte. Nous serons en ligne avec la députée Ramlati Ali, qui est aussi médecin. Médecin et élu, c'est le cas de Philippe Juvin, qui est aussi maire de la Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. L'occasion de parler avec lui du rôle des politiques dans cette crise et des leçons à en tirer pour l'avenir. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et Virginie Rouzic, notre rubrique confinée mais pas résignée, avec le carnet des solutions de Philippe Bertrand, juste avant 19h. À 19h20, au téléphone sonne, toutes les questions que vous vous posez à la veille de ce déconfinement en matière de commerce, de transport, mais aussi de santé, puisque vous le savez, désormais, il est question de tester à grande échelle et d'isoler les personnes contaminées. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais d'appeler le 01 45 24 7000 d'avance. Merci à nos standardistes, merci à Philippe Duclos et Patrick Henry à la technique, ainsi qu'à Olivia Ferrandi à la rédaction en chef.
Claire Servageant. Le 18-20.
Bonsoir professeur Philippe Juvin.
Bonsoir madame.
Vous êtes anesthésiste réanimateur, vous dirigez depuis 2012 le service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Grand merci d'être avec nous jusqu'à 19h malgré votre emploi du temps. Alors, demain, pour la première fois depuis pratiquement 2 mois, les Français auront à nouveau le droit de sortir de chez eux sans avoir à justifier leur déplacement dans un rayon de 100 km. Certains retourneront au travail, parfois en empruntant les transports en commun. Est-ce que tout cela vous inquiète ?
Non, il n'y a pas grand-chose qui m'inquiète. Vous savez, dès lors qu'on se prépare aux choses, il n'y a pas de raison de manifester de l'inquiétude. Il faut être prêt. D'abord, le déconfinement, c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne peut pas rester confiné éternellement. Ça pose des problèmes économiques, le chômage qui grimpe, ça pose des problèmes de santé aussi. On a des gens qui ont souffert du confinement et le déconfinement est nécessaire. Alors, pas n'importe comment, bien sûr, d'une manière extrêmement vigilante, mais il est nécessaire.
En tout cas, on n'est pas allé trop vite, on a raison de commencer demain, et notamment en Île-de-France.
Alors vous avez raison de dire que le déconfinement intelligent, c'est un déconfinement qui est d'abord progressif, et c'est un déconfinement, ce que fait d'ailleurs le gouvernement, qui est un déconfinement différencié selon les endroits. Très clairement, il y a des endroits de France où il y a peu de virus qui circulent, des lits de réanimation disponibles. Là, il n'y a pas de raison de ne pas aller plus vite qu'ailleurs. En revanche, très clairement, dans la région Île-de-France, il y a encore du virus qui circule. Il y a des questions d'hôpitaux qui sont un peu tendues encore, y compris en lit de réanimation, avec des stocks qu'il convient de reconstituer. Et donc, il faut y aller plus doucement et puis mettre à profit les quelques semaines qui sont devant nous, dans l'hypothèse, simplement, d'une deuxième vague pour se préparer.
C'est-à-dire très clairement que dans votre service aux urgences de Pompidou, vous n'allez pas relâcher la garde, vous allez conserver le dispositif que vous avez mis en place il y a 2 mois ?
D'abord, personne ne doit relâcher la garde. Il faut bien comprendre que dans cette épidémie hors norme, je pense que nous entrons dans la période en réalité la plus périlleuse. Pourquoi ? Parce que quand on a eu la vague qui a failli nous submerger fin mars et qui nous a mis en difficulté réelle, il n'y avait que des patients qui avaient le Covid. Tous les autres étaient calfeutrés chez eux et ne sortaient pas. La nouveauté depuis maintenant 15 jours, c'est que nous avons des patients qui arrivent relativement nombreux à l'hôpital pour de bonnes raisons, et qui sont les raisons que leur pathologie non-Covid, diabète, hypertension artérielle, leur cancer par exemple, ont évolué et il faut les traiter. Et donc là où c'est périlleux, c'est que si une deuxième vague survenait, et je ne sais pas si elle va survenir, mais si elle survenait, nous pourrions faire face non pas seulement les patients Covid comme fin mars, mais à la fois ces patients Covid, qui serait le fruit du déconfinement, mais aussi tous ceux qui n'ont pas le Covid, mais qui doivent être traités. Et donc c'est là où c'est vraiment périlleux.
Quelles seraient pour vous, ou quelles sont les conditions d'un déconfinement réussi, Philippe Juvin ?
En réalité, il y en a trois principales. La première condition, c'est qu'il faut que la population générale ait des masques. Et mettez les masques que les communes, les régions et les départements vous distribuent. Si vous n'en avez pas, eh bien, il vaut mieux un masque imparfait, fait par vous, que pas de masque du tout. Ne vous tassez pas dans les transports, ça c'est la première condition, donc masque et la question évidemment des transports. Je rappelle qu'une étude chinoise que je cite souvent a montré qu'un tiers des clusters, c'est-à-dire des foyers d'épidémie qui étaient survenus en Chine, étaient nés dans les transports en commun. Donc il y a un vrai sujet de transport en commun. Deuxième condition, il faut évidemment qu'on puisse réellement tester dès qu'un cas apparaît, même avec de faibles signes, et qu'on teste son entourage, pour dépister vite les clusters qui naissent, pour éviter qu'ils ne prospèrent, et ensuite qu'on isole tous ceux qui sont positifs ou suspects de l'être, c'est-à-dire qu'on ne les renvoie pas chez eux, réinfecter aussi leur foyer. Cette même étude chinoise que je citais il y a deux minutes montre que 80% des foyers d'épidémie ont une naissance unique ou associée dans le foyer, c'est-à-dire que les gens rentrent chez eux et infectent leurs parents, leurs enfants, etc. Puis la troisième condition, c'est qu'il faut qu'on ait des hôpitaux qui soient prêts, avec des lits de réanimation en nombre vide et des stocks réassortis des professionnels reposés. Trois conditions, les masques, la capacité de test massif et d'isolement, et troisièmement, les lits d'hospitalisation.
Alors, je voudrais vous faire écouter, professeur Juvin, ce que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dit aujourd'hui sur France Inter. Vous insistez beaucoup sur les masques. Je voudrais vous faire écouter ses propos.
Le succès du déconfinement ne repose pas sur les masques et sur les tests. Il repose sur le respect des gestes barrières, le respect des bons comportements.
Voilà sur ce que dit Christophe Castaner à propos de ce déconfinement. Philippe Juvin, est-ce que franchement le message politique vous paraît assez clair ?
Bon, c'est vrai, quand on entend Christophe Castaner dire ça, on est un peu troublé, mais je me méfie des enregistrements et des enregistrements partiels, c'est-à-dire que peut-être avait-il dit une phrase qui atténuait son propos quelques instants auparavant. Il est évident que les gestes barrières sont importantes, mais il se trouve que dans les gestes barrières, il y a le masque. Quand vous êtes dans un transport en commun et que vous êtes un peu les uns sur les autres, parce que c'est aussi ça, les transports en commun, il ne faut pas trop rêver. Il va y avoir des gens qui vont un peu se bousculer, parce qu'il faut qu'ils aillent à leur travail, par exemple. Eh bien, on doit porter le masque. Donc, les masques barrières, les gestes barrières, c'est quoi ? C'est se laver les mains, c'est être à distance des autres, mais c'est porter un masque. Je le répète, et je le dis, et je ne sais pas comment le dire autrement.
Vous le dites très clairement, mais Philippe Juvin, ça restera quand même le gros point noir de cette crise, les masques.
Ah oui, les masques et puis en réalité les équipements de protection, mais aussi les tests. En fait, on a appris que nos sociétés qui étaient insouciantes avaient oublié que nous sommes très régulièrement face à des dangers. La leçon, ça sera aussi probablement l'agilité, la nécessité que les pouvoirs publics soient agiles dans leurs décisions. C'est-à-dire que les guerres, ça se prépare, et quand elles arrivent, il faut les faire de façon adaptée, en s'adaptant en permanence au mouvement de l'ennemi. Et c'est ça qu'on aura appris durant cette crise.
Alors, loin de moi l'idée de vouloir polémiquer, mais il y a un sondage Odoxa paru dans le Figaro qui montre que les deux tiers des Français estiment que le gouvernement n'a pas été à la hauteur dans cette crise. Est-ce que vous faites partie de ces 66% de Français qui ne font pas confiance à leurs dirigeants pour gérer une telle crise sanitaire ?
C'est une question difficile. Je pense que d'abord, il faut dire les choses. Vous m'auriez demandé, en tant que médecin et responsable politique, un mois avant le confinement, si j'aurais cru à un confinement généralisé, je vous aurais répondu non. Donc très clairement, on a tous un peu été dépassés par les choses. Il reste pas moins, et c'est ce que je vous ai dit il y a une minute, c'est que je pense que les pouvoirs publics en général ont probablement manqué d'agilité. À la fois, la guerre n'a pas été bien préparée, nous n'avions pas de stock, ce qui est vraiment pas une bonne chose, c'est même très mauvais. Et en plus, quand elle est arrivée, nous n'avons pas su la reconnaître à temps et faire ces fameuses commandes rapidement. Donc, je pense qu'il y a un peu de marge. Il y a de la marge d'amélioration. Mais une des leçons, et d'ailleurs c'est la même étude que vous avez citée, c'est que les Français disent que, en revanche, il y a des élus qui s'en sortent bien dans leur jugement, ce sont les élus locaux. Parce que les élus locaux, en particulier les maires, ont su s'adapter très vite à des situations fluctuantes. Et donc, cette crise, c'est aussi le retour des élus locaux.
qui ont mis les mains dans le cambouis. J'imagine, professeur Jubin, que c'est très frustrant quand on doit renvoyer chez eux des gens au risque de contaminer leurs proches, sans même pouvoir les tester, avec une ordonnance pour un masque dont on sait très bien qu'on ne le donnera pas à la pharmacie. C'est quand même ce qui s'est passé au début de cette épidémie, y compris dans votre service. Et ça doit être frustrant de ne pas avoir les outils pour faire face.
Il est clair qu'au début, nous étions très démunis et quand quelqu'un venait pour une simple toux, par exemple, et qu'il ne devait pas être hospitalisé, eh bien, nous le renvoyions chez lui en lui disant qu'on ne pouvait pas le tester parce qu'on n'avait pas de test et qu'il fallait qu'il mette un masque en rentrant chez lui. On lui faisait une ordonnance et on savait qu'à la pharmacie, il n'en trouverait pas. Eh bien, ça, écoutez, c'est simple. Il sert à rien de se lamenter sur le passé. C'est vrai, nous avons plutôt les autorités sanitaires et peut-être politiques ont failli à cette étape-là. Ça doit nous servir de leçon, ça ne doit plus arriver. Il faut être prêt. On ne peut pas vivre dans une négation du danger. Il y a un danger, eh bien nous avons failli être emportés. S'il y a une deuxième vague, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Vous savez, si on a confiné, en fait, c'est parce que nous n'avions pas de test, pas de masque et pas de lit de réanimation suffisant. C'est pour ça qu'on a confiné. Donc, si nous ne voulons pas reconfiner, il faut que nous ayons des tests, des masques, et des lits de réanimation.
Alors, le gouvernement a promis 700 000 tests par semaine à partir de demain. Il a annoncé la mise en place également de brigades dites d'anges gardiens, chargées de casser les chaînes de contamination en cas de cas avérés. Le dispositif fonctionne déjà en partie à Paris, avec des bénévoles notamment qui dépistent les patients et leurs proches, des bénévoles qui sont formés. Je propose un coup de projecteur sur ce dispositif baptisé Covisan avec ce reportage de Rémi Brancato.
Dans ce campus de formation de la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, dans le 12e arrondissement, le professeur Renaud Piarou, chef du service de parasitologie à la Pitié-Salpêtrière, accueille 50 à 100 nouveaux bénévoles chaque jour dans l'amphithéâtre.
Vous allez faire équipe avec le patient.
Les bénévoles iront convaincre les nouveaux malades de s'isoler à leur domicile.
Je ne sais pas, une personne a besoin de faire ses courses. Est-ce qu'on leur propose des solutions ?
Oui, la Croix-Rouge est partenaire. Ils vont faire les courses pour les gens.
Tester les malades et leurs proches, puis isoler pour Renaud Piarou, ce dispositif est indispensable pour éviter une reprise de l'épidémie avec le déconfinement.
Plus on arrivera à faciliter le confinement et plus on détectera de nouvelles chaînes de contamination, mieux ce sera.
Plus de 700 bénévoles ont été formés en 8 jours.
Ils ont déjà un planning bien chargé de visites.
Choisis le roi, Saint-Mandé.
Dans cette salle, Sarah Djellouli, volontaire, elle aussi coordonne les visites pour les nouveaux binômes. Un soignant qui dépiste et un non-soignant qui dialogue avec les familles.
Ils sont formés sur l'ensemble des gestes, évidemment le prélèvement, mais aussi, eux sont formés, mais ils forment aussi les patients quand ils sont à domicile sur les gestes barrières.
Les profils sont variés. Camille Berthol est étudiante en orthophonie, Tayeb Tounsi, chargée de communication.
Je me sentais bête, en fait, de rester chez moi alors que je savais que j'avais la possibilité d'aider.
Ça faisait quelques mois que j'étais au chômage, mais c'était le bon moment d'utiliser son temps libre, puisque la recherche d'emploi en ce moment, c'est pas forcément le ciel le plus efficace.
Et il faudra aussi faire remonter des informations pour Martin Hirsch, le directeur de la PHP.
On a besoin d'avoir la connaissance de tous les cas, non pas pour fliquer les gens, mais pour pouvoir aller au-devant d'eux et les aider.
65 équipes seront en place en région parisienne.
Merci beaucoup de participer.
Il y en aura 200 à 300 dans les prochaines semaines.
Voilà pour ce dispositif Covisan qui existe pour l'instant à Paris. Le dispositif doit être élargi à partir de demain. Philippe Juvin, est-ce que d'après vous, d'après les informations dont vous disposez, le dispositif est au point ? Est-ce qu'il y a suffisamment de brigades sanitaires pour remonter la piste des contaminations ?
Écoutez, ça on le verra, on va le voir demain. C'est quand même un dispositif tout à fait exceptionnel que Martin Hirsch a mis en place. Mais il faut bien comprendre qu'on ne l'a jamais fait. Donc c'est quand on sera face à plusieurs cas qu'on saura si on y arrive. L'idée, elle est simple, hein. C'est que malheureusement, dans cette maladie, nous avons appris nous étions contagieux 2 à 3 jours avant d'avoir le premier symptôme. Ça signifie que vous pouvez être contagieux vis-à-vis de votre famille ou vos collègues de travail, alors même que vous n'avez pas de symptômes, et vous mettez à tousser, eh bien il faut qu'on aille rechercher tous les gens que vous avez rencontré pendant 2 à 3 jours derrière et qu'on les interroge et qu'on les teste. Covisan, ça sert à ça, parce qu'il ne faut pas revoir ce qui nous est arrivé, souvenez-vous, à Mulhouse, où il y a eu un cluster qu'on n'a pas su en fait maîtriser et qui a flambé, qui a causé le drame du Grand Est. Ça, les clusters, il faut rapidement les dépister et rapidement les contrôler. Et puis, Et à tous ces gens, ça a été dit dans le reportage, une fois qu'ils sont positifs ou suspects, il faut éviter de les renvoyer chez eux, il faut les isoler. Alors c'est pour ça qu'il y a des chambres d'hôtel, des choses comme ça. C'est un très gros chantier. C'est indispensable.
Alors certains se sont inquiétés, notamment dans les rangs politiques, y compris de vos amis, de votre famille politique, LR, du traçage de la population à travers ces dispositifs à venir. Est-ce qu'il y a vraiment une atteinte, un risque d'atteinte aux libertés, ou c'est un faux débat, ça, Philippe Juvin?
Alors non, c'est pas un faux débat, c'est un vrai débat important, qu'il faut avoir d'une manière démocratique. En fait, vous savez, cette crise, elle est simultanément une crise de santé publique, du système de soins, économique, social. Et la façon dont nous allons progresser dans chacune de ces crises, et il y a le débat sur la recherche des cas contacts est un exemple, définira la civilisation qui sortira de cette crise. Autrement dit, nous devons être très vigilants à faire en sorte que, par exemple, le secret médical ne soit pas rompu. Bien, moi, je pense que la loi garantit les libertés individuelles et nous devons veiller à ce qu'elles soient appliquées. Il y a des cas dans le passé, enfin pas dans le passé, il y a déjà des maladies à déclaration obligatoire. Moi j'ai souvenir que quand je faisais mes études de médecine, on m'avait appris, alors c'est plus le cas aujourd'hui, que quand on avait la tuberculose, qu'on était bacillifère, c'est-à-dire contagieux, et qu'on refusait de se traiter, eh bien le médecin devait déclarer votre cas pour qu'on puisse venir vous chercher, vous obliger à vous faire traiter. Vous imaginez bien que si vous rentrez d'un pays lointain avec Ebola et que vous expliquez que vous voulez pas vous faire soigner et que vous allez vous balader dans le métro, on va venir vous chercher. Eh bien, il y a une balance complexe à faire entre la protection des libertés individuelles, et le secret médical en est une, et la protection de l'intérêt général. C'est très complexe. Il ne faut pas dire ça va être fait comme ça, mais ce qui est en jeu, c'est la santé de la nation.
Et puis il y a peut-être aussi le comportement de tout un chacun, parce que nous, citoyens, on a un rôle actif aussi à jouer dans ce début de déconfinement. On est aussi des acteurs de ce qui va se passer.
Oui, vous avez raison, et j'oserais même ajouter d'aller un peu plus loin que vous, c'est que quand on regarde les choses depuis 2 mois au fond, ce sont les Français qui essentiellement ont porté l'effort de la crise. Ce sont eux qui, soit en restant chez eux, soit en acceptant d'aller soigner d'autres Français ou de les ravitailler, ont porté les choses. Donc finalement, vous savez, ce sont toujours les Français qui payent l'addition et payent la charge de ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai souvenir du plus fort de cette crise quand les infirmiers et les aides-soignants de l'hôpital, qui il y a encore un an manifestaient parce qu'ils étaient sous-payés, ils le sont toujours, travaillaient sans arrêt, en permanence, avec des moyens de protection qui étaient ce qu'ils sont et ce que vous avez compris qu'ils étaient.
Dérisoires.
Parfois insuffisants. Eh bien, et encore une fois, dans mon hôpital, j'estime que nous avons plutôt été gâtés quand on compare à des situations de médecins de ville où les médecins n'avaient rien. Les infirmières libérales n'avaient rien. Donc, tous ces gens, eh bien, ils ont porté, ils ont tenu. Et c'est intéressant de voir qu'au fond, vous voyez, je fais un parallèle, il y a un philosophe, le philosophe Alain, avait décrit la guerre dans les tranchées en 1915 et 1916, et il disait au fond, lui qui avait fait la guerre, c'est une guerre des pauvres, c'est une guerre d'une France qui est celle de la France agricole qui était dans les tranchées, et bien c'est cette France qui a gagné la guerre. Et bien c'est cette France des hôpitaux, des infirmiers, des aides-soignants qui a gagné la guerre.
Alors on reviendra évidemment sur cet aspect des choses, concernant l'hôpital et ses personnels dans quelques minutes. Philippe Juvin, ne quittez pas, mais on va aller dans le seul endroit où le déconfinement ne débutera pas demain, c'est Mayotte, dans l'océan Indien. Dans ce département, la situation semble particulièrement inquiétante, pour ne pas dire hors de contrôle. Nous sommes en ligne à présent de Mamoudzou pour en parler avec la députée La République En Marche de Mayotte, Ramlati Ali. Bonsoir madame.
Bonsoir madame.
Merci de répondre à nos questions. Pas de déconfinement prévu chez vous, mais j'ai même envie de vous demander, est-ce qu'on peut vraiment parler pour l'instant d'un véritable confinement?
Alors, il est vrai qu'on peut se poser la question, dans le sens où une partie de la population a décidé d'en découdre avec les forces de l'ordre et qu'ils organisent des manifestations le soir, notamment, où il peut y avoir plus de 200 personnes réunies sur différentes places publiques. Et par rapport à ça, il y a aussi certaines catégories de personnes qui jugent que pendant le mois de Ramadan, il faut absolument qu'ils se fassent leurs prières en communauté, et notamment dans les mosquées qui sont censées être fermées. Donc voilà, parler de confinement dans ces conditions-là, ça reste vraiment emblématique. Et là, je n'ai même pas dit le vrai problème qui se pose à Mayotte, c'est que il y a la majorité de la population, je veux dire ça comme ça, qui vivent dans des maisons précaires, que nous on appelle banca, où il peut y avoir 20 mètres carrés pour une dizaine de personnes. Donc comment les gens peuvent rester en confinement dans ces conditions-là ?
Très difficile, effectivement. Aujourd'hui, où en est l'épidémie ? Il y avait plusieurs centaines de cas recensés, une dizaine de décès, un seul hôpital pour une population estimée à 400 000 habitants. Un hôpital, je le précise, dans lequel je crois que vous avez exercé, puisque vous êtes médecin. Ramlati Ali, quelle est la situation ? Il y a des malades qui ont été transférés à La Réunion, je crois aussi ?
À La Réunion, absolument. Donc on a un seul hôpital, c'est le centre hospitalier de Mayotte, qui est composé de deux unités avec ce qu'on pourrait appeler des hôpitaux intercommunaux. Mais la majorité de la population donc, se fait hospitaliser à l'hôpital de Mamoudzou, où on a effectivement 16 lits de réanimation, un service de médecine qui est composé de une cinquantaine de lits, mais actuellement, il y a trois unités en fait de médecine avec une unité qui s'occupe juste des malades coronavirus. Et puis effectivement, on a cette possibilité depuis 3-4 jours de transférer des malades à La Réunion. Et ça, c'est depuis 3-4 jours.
Donc vous avez clairement besoin de moyens supplémentaires. Pardon ? Je dis, vous avez clairement besoin de moyens supplémentaires. Est-ce que ces moyens, ils vont arriver ?
On a besoin de moyens supplémentaires. L'hôpital de Mayotte, c'est bien connu, c'est le désert médical par excellence de la France. On a alerté, notamment moi, député, oui, mais comme vous l'avez dit, je suis praticien hospitalier, donc j'ai travaillé à l'hôpital de Mamoudzou, donc on a alerté dès le départ, j'ai alerté en leur disant que à partir du moment où on aura des cas de coronavirus dans ces fameux bangas, on ne pourra plus maîtriser quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, on se disait qu'on y arriverait peut-être. Quand je dis « on », c'est l'ARS, c'est l'hôpital. Mais aujourd'hui, clairement, les moyens ont été annoncés. On nous a parlé de l'hôpital de campagne qui devrait arriver la semaine prochaine, et j'espère bien que ça va arriver, parce que en même temps que la crise de coronavirus à Mayotte, on a une crise de dengue qui fait beaucoup plus de mal aux Maorés que le coronavirus actuellement. Parce que la dengue, c'est 4000 personnes. Il y a officiellement 16 personnes qui sont mortes de dengue. Mais dans la réalité des choses, il doit y avoir plus qu'une vingtaine de personnes, mais qui ne vont pas à l'hôpital.
Et vous pensez que clairement le Paris a pris conscience de cette situation ? Vous demandez plus aujourd'hui à Édouard Philippe ?
La prise de conscience est là. Mais ce que je demanderai à Édouard Philippe aujourd'hui, c'est que le coronavirus n'a fait que montrer encore plus le problème de la santé à Mayotte. Donc, ce qui s'est passé à Mulhouse et dans l'est de la France, qu'on a été obligé d'envoyer des malades ailleurs, on pourrait nous dire ça s'est passé là-bas, donc ici c'est la même chose. Je réponds, ici c'est pas la même chose, parce que on est dans une île. Le plus proche, c'est le territoire français le plus proche, qui est à 400 km, c'est à La Réunion. Ils ont leurs problématiques avec leur déficit. Et donc, cette santé qui est déficitaire, il faut absolument qu'on arrive à en sortir. Il est vrai que le président de la République, quand il est arrivé à Mayotte, il a annoncé un nouvel hôpital. Eh bien, il faudrait que cet nouvel hôpital, on y arrive rapidement, qu'on ait le personnel qu'il faut, le matériel qu'il faut, et surtout que les Maorés soient aidés pour arriver à avoir un certain nombre de médecins sur place, et aider, ça ne veut pas dire donner des diplômes, mais donner les moyens aux Maorés de se former à Mayotte.
Effectivement. Merci beaucoup, Ramlati Ali, député La République En Marche de Mayotte. Merci d'avoir répondu à nos questions. On a bien compris qu'à Mayotte aussi, il y a des problèmes de moyens. Hein. On en revient pratiquement toujours à la même question. Toujours en ligne avec nous, le professeur Philippe Juvin, directeur des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce qu'on vient d'entendre, Philippe Juvin.
Écoutez, la députée connaît évidemment bien mieux la situation que nous, mais Mayotte, c'est 82% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, une population extrêmement jeune, la moitié de la population à moins de 18 ans, a expliqué le préfet, et il y a une très faible offre sanitaire, donc les conditions sont remplies pour qu'il y ait une véritable bombe sanitaire. Je crois que le gouvernement envisage d'envoyer un hôpital de campagne. Il faut effectivement mettre beaucoup de moyens. En fait, Mayotte est l'expression malheureuse ultime des questions d'aménagement du territoire. On a vu également des zones en France qui ont eu besoin d'être beaucoup aidées en France métropolitaine, d'être beaucoup aidées quand il y a eu l'épidémie. Une des leçons qu'il faudra tirer de cette crise, c'est que la santé doit être aussi régionalisée, qu'il faut donner des moyens régionalement. Ce sont elles les régions qui connaissent bien les besoins. Il faut qu'il y ait une égalité d'accès aux soins partout sur le territoire. Quand on est citoyen français, on doit avoir les mêmes droits en matière d'accès hospitalier, que l'on habite en métropole ou en outre-mer, sur une île ou sur le continent, on doit être égaux devant l'épidémie.
Et plus de pouvoir à ceux qui travaillent directement, les soignants. C'est un petit peu ce que vous avez dit, Philippe Juvin, récemment dans une tribune que vous avez publiée dans le journal Le Monde avec votre confrère Mathias Vargon, qui est urgentiste lui aussi. Vous avez dit, on ne subira plus. À vous lire, on comprend que cette crise a changé pas mal de choses en 2 mois, mais qu'au-delà de ces 2 mois, les vieilles habitudes commencent à revenir et que ça va bien au-delà des urgences. On va en parler, mais je voudrais vous faire écouter ce que dit à Véronique Julia Agnès Hartmann. Elle est diabétologue à la Pitié-Salpêtrière.
On a eu l'impression d'être libérés, comme si on nous avait ouvert une porte de prison. Tout le monde a retrouvé du sens au travail. On a compris qu'il y a un ordre qui était venu sûrement de très haut pour qu'on nous donne ces moyens-là. Presque choquant, par moments, il y a des personnels qui disaient « mais c'est même étonnant d'avoir autant de moyens ». Il y a une aide-soignante qu'on envoyait chercher en taxi parce qu'elle habitait loin, qui repartait en taxi. Elle m'a dit « c'est presque inquiétant qu'on nous donne autant de moyens ». Il y a un deux poids, deux mesures qui est vraiment un peu surprenant. Et elle avait pas tort. Parce que depuis 5 jours, on vit d'un seul coup une espèce de douche froide. Les patients atteints du Covid sont partis de mon bâtiment et on voit réapparaître des vieux réflexes de la direction gestionnaire. On commence à compter les lits vides et les plannings. On a d'un seul coup l'impression que ça bascule. On nous pointe qu'on est en négatif. C'est quand même un truc incroyable sur mars-avril. Ce qu'on peut espérer, c'est que ce qu'on attend maintenant de nos dirigeants, c'est qu'on puisse soigner les patients non-Covid qui vont revenir de la même manière qu'on a pu soigner les patients atteints du Covid.
Philippe Juvin, si on entend bien ce qui se dit, c'est que globalement les soignants avaient repris le pouvoir au plus fort de la crise et que maintenant les administratifs et les comptables, je caricature, reprennent la main. C'est un petit peu ça, non, vous ?
Alors, non, mais il est certain que ce qui s'est passé, c'est que les hôpitaux ont adapté tous leur fonctionnement à l'épidémie, localement, en se dotant par exemple de gestion d'une gestion qui était médicalisée. On s'est doté de directeurs médicaux, ce qui n'existait pas, c'est-à-dire un médecin qui a était le bras droit ou l'équivalent du directeur. Et le fait que nous ayons dû modifier nos fonctionnements face à l'épidémie montre bien que le fonctionnement habituel n'était pas le bon, puisqu'il a fallu le modifier, il a fallu le changer. Donc il y a 1000 choses à changer. Ce qui vient d'être dit est malheureusement vrai. Prenez l'exemple des tâches administratives. Moi, en tant qu'urgentiste, quand je suis posté dans mon service, eh bien je passe probablement 70% de mon temps à des tâches administratives, à rechercher par exemple des places pour mes malades en passant des coups de fil ou étant devant mon ordinateur au lieu d'être face à mon patient. Et le temps que je ne passe pas avec le patient, c'est du temps pendant lequel je ne lui donne pas du temps, lui, le patient, à être entendu, à être écouté, à être pris en charge. Et si vous voulez, ce trop-plein administratif, eh bien, il envahit notre quotidien de médecin. Est-ce que vous savez, ce chiffre est absolument incroyable, qu'à l'hôpital public, tous les hôpitaux publics de France pris ensemble, quand vous regardez le nombre d'emplois de médecins, Et le nombre d'emplois d'administratifs, eh bien, c'est le même. Il y a autant d'emplois administratifs que de médecins à l'hôpital public. Est-ce que c'est logique d'avoir dans une armée en campagne, puisqu'on nous a appris que c'était la guerre contre le coronavirus, autant de chefs d'état-major que de soldats qui font la guerre?
Alors,
c'est un vrai sujet.
Je vous laisse poser la question. Je voudrais revenir à ce que vous nous disiez tout à l'heure à propos de tout ce personnel qui s'est mobilisé, qui n'a pas compté son temps pendant ces deux mois et qui aimerait bien une reconnaissance. Je voudrais vous faire écouter Juliette Richard. Elle est infirmière aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré à Paris. Elle est membre du collectif Interurgence qui réclame depuis des mois une véritable revalorisation salariale pour les personnels. Alors, elle aimerait bien que les pouvoirs publics s'en souviennent à l'heure où les citoyens, eux, font part de leur reconnaissance.
Je pense qu'une prise de conscience a été faite au niveau des citoyens, au niveau des personnes qui vraiment nous comprennent et sont vraiment, de manière générale, très avenantes. Les comportements ont changé au niveau des patients.
Il y a une reconnaissance, un respect.
Voilà, tout à fait. Une tolérance du fait que c'est un petit peu plus long. Vous voyez, alors que d'habitude, vraiment, le côté attente aux urgences était vraiment source d'agressivité parfois. Mais par contre, au niveau gouvernemental, je suis pas certaine qu'il y ait une réelle prise de conscience. Vous voyez, cette revalorisation salariale, cette demande d'augmentation de lits, cette demande de personnel en plus pour pouvoir gérer les vagues qui peuvent arriver, on l'avait pensé, on l'avait prédit. Je sais qu'une de mes collègues avait été interviewée et elle avait dit « s'il y a un attentat ou une pandémie, on n'y arrivera pas ». La demande a été anticipée de notre part, mais au niveau du gouvernement, ça n'avait pas été entendu. Je ne sais pas si aujourd'hui, ils sont réellement... Franchement, nos efforts, ils sont quotidiens, ils sont annuels. Ils sont pas que quand il y a le Covid, ils sont pas que quand il y a une bronchiolite. C'est vraiment constant. Et on a une forme de frustration. Et là, par exemple, sur notre service, il y a plusieurs collègues où c'est vrai que cette crise a fait tremplin au fait qu'elles ont envie de partir. Malheureusement, j'ai peur que des collègues, des bons éléments, nous quittent par rapport à nos conditions de travail et ce manque de revalorisation salariale.
Donc il y a une urgence de ce côté-là, Philippe Juvin.
Il y a évidemment une urgence à la fois sur les rémunérations du personnel à l'hôpital, ce sont des personnels sous-payés. Il y a une urgence également à une meilleure utilisation des moyens. Il y a des lits qui manquent. On a vu par exemple sur les lits de réanimation que nous avons en France 5000 lits de réanimation, là où les Allemands en ont 25 000. En France, il y a 75 lits de réanimation par million d'habitants. Aux États-Unis, il y en a 259 lits de réanimation par million d'habitants. Donc, vous voyez, on a cette question qui est très très claire. L'hôpital de demain doit devenir un hôpital à la fois moins chargé de tâches administratives, probablement plus efficace, plus tourné vers le patient, avec du temps médical et paramédical. Le temps des médecins et le temps des infirmiers doit être plus consacré à s'occuper des gens qu'à s'occuper des dossiers ou des tâches administratives. Il faut qu'on retrouve des marges de manœuvre financières parce que l'argent ne va pas tomber du ciel. Par exemple, est-ce que c'est normal qu'à l'hôpital, on fasse le travail parfois de la médecine de ville? Non. Nous devons avoir avec la médecine de ville des relations qui soient des relations intelligentes, qui fassent qu'à l'hôpital, on se concentre sur les diagnostics difficiles, sur les décompensations aiguës, c'est-à-dire les complications, et sur l'innovation. Et que la médecine de ville joue son rôle, par exemple, dans la prise en charge quotidienne des maladies chroniques, le diabète, le cancer, etc. etc. L'hôpital, si vous voulez, il faut tirer les enseignements du Covid pour transformer, pas demain ou après-demain, parce qu'on a eu tellement de promesses dans le passé, mais dès maintenant, l'hôpital public, on ne doit pas, dans les jours qui viennent, revenir au fonctionnement que nous connaissions. Par exemple, j'en prends un dernier exemple, regardez les personnes âgées. Ces personnes âgées, est-ce que c'est normal qu'elles dorment la nuit sur un brancard aux urgences? Non. Alors qu'il y a des lits libres dans l'hôpital? Évidemment non, ce n'est pas normal. Eh bien ça, c'est du fonctionnement. Et ce fonctionnement, il faut le modifier, faire en sorte que ça ne soit plus possible.
Et le faire sans attendre, c'est un petit peu ce que dit également Stéphane Escher.
D'être un vieil homme maladroit, que la solitude faudroie, que tous mes amis me lâchent, que chaque pièce soit à sa place, que nos jours nous soient comptés, que nos fêtes soient annulées, de ne plus trouver ta trace, de mendier le temps qui passe, de ne plus savoir ton nom, de n'avoir plus d'horizon. Je n'attendrai, n'attendrai que la mémoire te revienne, que tu ne sois plus la mienne, qu'on soit dans l'obscurité, que nos forces nous aient quittés, que la justice intervienne, qu'on soit démis de nos chaînes, que le ciel vire au lilas et que tu te lasses de moi. Je n'attendrai, n'attendrai.
Je n'attendrai pas Stéphane Eicher, programmation musicale de Muriel Pérez.
France Inter. Le 18-20.
Toujours en compagnie du professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Ne pas attendre pour entamer toutes les réformes dont on a parlé depuis le début de cette émission. Philippe Juvin, j'ai une question cette fois-ci à l'ancien député européen que vous êtes, puisque vous avez passé 10 ans sur les bancs du Parlement européen. On a beaucoup dit que l'Europe avait été aux abonnés absents pendant cette crise, que bon, la santé n'était pas forcément une politique commune de l'Union. Bon, il y a eu des gestes forts, des patients transférés dans certains pays. Est-ce que d'après vous, cette crise doit amener l'Union à revoir certains de ses dogmes en matière budgétaire, par exemple en matière de libre-échange, parce que c'est aussi de ça dont souffre l'hôpital public aujourd'hui, du manque de moyens.
Alors, je ne suis pas certain que le libre-échange ait fait souffrir l'hôpital public aussi directement que ça. Non, je pense qu'en revanche, il y a de vraies questions européennes à se poser, pendant la crise et après la crise. Pendant la crise, et il faut probablement qu'on se prépare dès maintenant à une prochaine crise, l'Europe, ça doit servir à faire en sorte que nous puissions ensemble reconstituer nos stocks. Ça doit servir à ce que on puisse transférer les malades graves de réanimation d'un pays vers un autre quand c'est nécessaire, plutôt que d'attendre et voir nos lits se remplir sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. C'est aussi peut-être faire en sorte que, dans la crise, des médecins, des infirmières, des aides-soignants d'un pays aillent dans l'autre, pour une mission de 2-3 semaines, pour donner un coup de main, aille dans des endroits où c'est plus facile. Et donc, l'Europe, c'est cette collaboration, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut imaginer. Et puis demain, l'Europe, eh bien, ça doit être aussi un projet. Et ce projet, eh bien, c'est par exemple la relocalisation d'industries. Nous avons décidé de nous débarrasser de nos industries, et nous dépendons trop, pour des raisons stratégiques, de la Chine ou d'autres pays. Eh bien, c'est pareil. Il faut que nous puissions faire revenir des productions. On parle des masques, mais la même question vaut pour les vaccins. La même question vaut pour les médicaments. La même question vaut pour l'alimentation ou l'énergie. Nous devons avoir à la fois des stocks stratégiques en Europe et à la fois la capacité à subvenir à nos besoins. Vous savez, l'Europe, la Communauté européenne économique, la CEE, dans les années 70, a été créé pour assurer l'indépendance alimentaire de l'Union, enfin des pays de l'Europe de l'époque. Eh bien, c'est pareil. Désormais, nous devons être capables d'assumer une indépendance que nous ne sommes plus capables d'assumer. L'Europe, elle sert à ça.
Philippe Juvin, il nous reste malheureusement assez peu de temps, que 2 minutes. J'ai encore 2-3 petites questions à vous poser, si vous pouvez me faire des réponses courtes. Vous êtes maire, je l'ai dit, de la Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que dans votre commune, les enfants vont repartir à l'école cette semaine ?
Bien, d'abord, c'est une décision du Premier ministre. Il y a un décret, donc le Premier ministre a réouvert les écoles, donc les maires réouvrent. Et ce sont les maires qui s'assurent du bon fonctionnement avec l'éducation nationale. Il y aura des masques pour tout le personnel qui travaille dans les écoles, des produits hydroalcooliques, des classes à moins de 15 et à moins de 15 enfants en élémentaire et à 10 enfants en maternelle, des repas pris, non pas à la cantine, mais dans les classes. Oui, on va faire tout ça, en même temps que d'ailleurs, j'ai distribué 2 masques en tissu lavable à toute la population, ainsi qu'à tous les commerçants, pour que la vie reprenne.
Une question un petit peu plus personnelle peut-être. Cette crise, est-ce qu'elle vous a changé, vous, le médecin, l'élu, sachant que vous êtes anesthésiste réanimateur, hein, on voit quand même des choses très difficiles d'une manière générale dans cette profession. Est-ce que là, ça a été encore plus difficile que d'habitude?
Oui, ça a été difficile parce que il a fallu s'adapter considérablement et très vite. Et les structures n'ont pas toujours suivi. Et ce qui a marché, c'est que ça soit à l'hôpital ou que ça soit dans ma commune, ce sont les circuits courts de décision. Et si l'hôpital a pu s'adapter, si la commune a pu s'adapter, c'est que les décisions se prenaient rapidement entre nous et que nous n'avions pas à faire remonter à des échelons, à des chefs, des sous-chefs, des ordres, des contre-ordres. Au fond, quand la France a été en difficulté dans cette crise, c'est justement parce qu'il y avait cette multiplicité administrative, cette absence d'agilité qui faisait que toutes ces strates administratives se contredisaient entre elles. C'est la vraie leçon. Et puis maintenant, la période qui s'ouvre, elle est périlleuse d'un point de vue sanitaire, mais aussi politiquement, parce que le monde de demain ne peut être celui d'avant. C'est pas un slogan, c'est une exigence. Pour tous nos concitoyens, il faut qu'on protège, il faut qu'on relocalise et il faut qu'on transforme la société.
Merci beaucoup Philippe Juvin d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je vous rends à vos patients et à vos équipes de l'hôpital Pompidou. On termine cette émission avec notre rubrique confinée mais pas résignée ce soir. Philippe Bertrand, vous nous faites découvrir une petite sœur, une petite radio d'un village de l'Hérault qui aura vécu le temps du confinement.
Bonjour Claire, aujourd'hui je vous propose de prendre la direction de Montpérou dans l'Hérault. Montpérou est un village médiéval et viticole qui fait partie des plus belles communes de France. Le beau cadre ne suffit pourtant pas à oublier le confinement. Alors il y a une solution à Montpérou, c'est la web radio. Celle de Montpérou est créée par Félix Louska. Félix, bonjour.
Bonjour.
Je plante le décor, le studio c'est votre maison et votre assistante est votre épouse.
C'est exactement ça.
Alors, on fait comme les pros chez vous, conférence de rédaction de matin et choix des rubriques de la journée?
Absolument, en fonction du matériel disponible, mais tous les matins, oui, on se réunit pour savoir ce que nous allons mettre dans l'émission.
Montpérou, c'est 1350 habitants et vous avez pu dégoter 10 chroniqueurs?
Absolument. Alors, d'abord, on a été dans le cercle d'amis et puis après, il y a des gens qui spontanément se sont proposés et qui nous ont alimentés avec leurs rubriques.
Anna nous présentera une journée consacrée à un continent. Isabella nous fera découvrir une nouvelle recette bien étonnante. Et nous terminerons l'émission avec le groupe montpérousien La Cravate. Vous écoutez la 30e émission de votre web radio. Gardez le lien à Montpérou.
Alors d'abord, on essaie d'interviewer une personne de Montpérou, justement, pour faire entendre les voix de Montpérou, en essayant aussi de couvrir un petit peu toute la typologie des activités, toute la sociologie de Montpérou. C'est-à-dire, on va avoir des vignerons, des mères de famille, des artisans, etc. Et puis après, eh bien, nous plaçons en général deux, parfois trois petites chroniques. En fait, le tout correspond à ce que serait une interaction normale dans une journée de village, c'est-à-dire on descend au village, on rencontre quelqu'un qui nous raconte un petit peu sa vie, et on tombe sur quelqu'un qui nous donne une astuce. Donc c'était un moyen d'essayer de reconstruire ça de manière virtuelle, voilà.
Et en même temps, Félix, vous construisez une mémoire, certes éphémère, mais une mémoire du village. Qu'allez-vous en faire ?
Alors, ce qu'on va en faire, bon, de toute façon, on va tout archiver et je ne vous exclus pas que je commence à réfléchir à faire un petit travail là-dessus parce que effectivement, on a des éléments parfois très prégnants de ce qui se passe à Montpérou et ça, c'est particulièrement intéressant. Pour vous dire, bon, c'est un véritable travail qui prend plusieurs heures par jour, mais c'est extrêmement intéressant.
Ouais. Vous êtes enseignant, vous allez être bientôt rappelé en cours. La web radio s'éteindra à ce moment-là?
Alors, elle est prévue pour s'éteindre avec le confinement, donc dernière émission spéciale dimanche soir. Mais on a eu des sollicitations pour essayer de la faire perdurer d'une manière ou d'une autre, alors on est en train d'y réfléchir.
Et il y a un lien que vous allez trouver sur SoundCloud pour écouter les émissions de la web radio de Montpérou. Merci Félix.
Merci à vous.
Nous terminons cette émission avec notre groupe montpérousien La Cravate et leur morceau « I Need Silence ».
I need silence.
Merci beaucoup Philippe Bertrand. Dernière émission donc ce soir pour cette web radio et dernière rubrique confinée mais pas résignée pour nous, la dernière en tout cas, on l'espère. Dans un instant, le journal de 19h. Ensuite, au téléphone sonne, question pratique sur le déconfinement. On parlera transport, commerce, santé, appelez le standard de France Inter.